Voisin avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des enfants illégitimes. On les appelait autrefois des bâtards. Un mot qui résume la honte de ces enfants, la culpabilité des mères ou le déni de pères qualifiés de simples volages parce qu'ils avaient été procréés en dehors du lit conjugal. Les enfants illégitimes grandissent souvent avec cette idée diffuse que quelque chose ne colle pas dans leur famille. Par exemple, une absence de ressemblance physique avec le reste de la fratrie, une mère emmurée dans son secret. Et une fois devenus adultes, ils se demandent pourquoi ils n'ont pas eu le droit à la vérité sur leurs origines ou encore un père biologique et officiel comme les autres. Aujourd'hui, avec les tests ADN facilement accessibles, on pourrait croire que tout est plus simple, ce qui n'est pas le cas, car la justice protège souvent la cellule familiale dans ses imperfections. Les voisins, les voisines, vous avez la parole sur le sujet. Vous êtes nombreux à nous envoyer des messages intimes, anonymes. Appelez-nous en toute simplicité sur WhatsApp. Évidemment, on conserve votre anonymat, on respecte ça. Vous êtes au 33 7 64 45 51 41. C'est le compte WhatsApp pour nous appeler. 33 7 64 45 51 41. Alors évidemment, il y a plein de cas de figure différentes, hein, d'enfants illégitimes. Pour dialoguer avec vous, Marie Lemelan, bonjour.
Bonjour.
Vous avez choisi de vous reconstruire par le groupe en partageant votre histoire. Vous avez créé le site internet Bande de Bâtards, qui est d'ailleurs un titre qui a fait couler pas mal d'encre. Vous nous expliquerez pourquoi. Vous publiez aujourd'hui Le syndrome du bâtard, connaître ses origines pour construire son identité aux éditions Flammarion. Nous sommes aussi en liaison avec Maureen Boigen, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychothérapeute spécialiste en psychogénéalogie. Nous parlerons de votre travail et des personnes que vous essayez d'aider. Et quant à vous, les voisins, les voisines, je vous rappelle notre numéro 33 7 64 45 51 41. Je vous lis le message de Bintou, qui a 40 ans, originaire du Sénégal, est à Paris. La vie des enfants illégitimes est très compliquée. On va toujours te rappeler comment tu as été conçu, et ça peu importe ta position dans la société. Il n'y a pas une femme politique au pays qui se bat pour la dignité et la reconnaissance de ces enfants-là. Abdoul est à Nouakchott, en Mauritanie, nous dit « Le sujet est tabou en Afrique. Je connais des hommes qui ne savent pas que certains de leurs enfants ne sont pas les leurs. D'autres pères le savent, mais ils préfèrent garder le secret par peur d'être mal vus par la société. » C'est le cas dans de très nombreux pays du monde, non ? Des pères qui se posent la question de savoir si leur enfant est bien le leur, non ? Marie Lemelan.
J'imagine que oui, je pense que c'est...
Il n'y a pas que des enfants qui se posent cette question-là.
Non, j'imagine que des hommes se posent aussi la question, oui.
Écoutez le témoignage aussi, tout de suite, de ce voisin.
Bonjour Emmanuel, je m'appelle Étienne, je suis ivoirien. Je vous ai dit que j'ai fait un enfant hors mariage. L'enfant-là a presque 30 ans maintenant. Elle a de 6 à 7 mois d'intervalle avec mon aîné. Depuis lors, il est dehors, je n'ai pas reconnu l'enfant. Maintenant, les parents de l'enfant sont venus me dire de reconnaître l'enfant et amener à la maison. J'ai dit, ok, bon, je vais voir. Bon, j'ai réuni mes enfants avec ma femme en leur disant que non, j'avais fait un enfant dehors. C'est là où alors mon aîné là, m'a répondu en disant que non, papa, depuis que tu as fait l'enfant là jusqu'à présent, c'est maintenant que tu nous présentes que non, tu as fait l'enfant dehors. Étant 30 ans, je suis désolé. Qui devait nous amener l'enfant là depuis à bas âge pour qu'on grandisse avec l'enfant. En ce temps, on n'aurait pas quand même des mauvaises idées ou bien des mauvaises cœurs envers cet enfant-là parce qu'on a grandi ensemble. Mais maintenant, tu amènes l'enfant à l'âge de 30 ans dans la maison. Comment il peut vivre avec nous maintenant? C'est là où je vous demande maintenant, je vais faire comment pour convaincre ma famille à ramener l'enfant à la maison.
Voilà, comment admettre ce nouvel arrivant, cet enfant illégitime dans sa famille biologique avec son père biologique. Moi, Maureen Boigen, c'est aussi un cas de figure hein, assez répandu.
C'est pas si répandu que ça, en fait, hein, d'avoir déjà le témoignage d'un père qui avoue avoir eu un enfant dehors du mariage ou avant le mariage et qui souhaite en fait ramener cet enfant maintenant dans la famille. C'est vrai qu'il s'est passé 30 ans, donc 30 ans en fait avec un blackout pour la famille qu'il a construite. Donc c'est vrai que ça fait bizarre en fait pour cette famille qu'il a construite, enfin qui s'est composée, de voir ramener quelqu'un qui appartient au passé de son père.
C'est ça, et qui ne fait pas partie de la famille officielle.
Exactement.
Même si cet enfant-là, il a toujours connu ses origines, il a connu son père, mais avec une autre forme de secret, Marie-Lé Blanc.
Oui, et en fait, ça me fait penser... moi, je sais que mon père biologique, dans sa famille, ses enfants sont au courant de mon existence aujourd'hui. Et malgré ça, le secret perdure et la parole ne circule pas. Donc, il est impossible que je sois intégrée dans cette famille, moi non plus.
Ouais.
Est-ce qu'on sait quelle est la proportion d'enfants illégitimes dans une société, dans un pays, Marie-Lé Blanc, je sais que...
Alors malheureusement, il n'y a aucune statistique fiable. La raison qui me semble la plus claire, c'est que personne ne va se poser la question de savoir s'il est bien l'enfant de son père. Vous n'avez absolument aucune raison d'en douter. Et du coup, il y a des statistiques qui varient un peu depuis pas mal d'années. À une époque, on parlait de 20%, après on parlait d'un enfant sur trois. Là, la dernière étude moi, que je cite dans mon livre, ce serait plutôt 1%. Mais en fait, c'est impossible de définir avec certitude le nombre, puisque, comme je vous le disais, personne ne songe à se poser la question.
Vous parliez de cette impossibilité de faire circuler la parole. Et ça, évidemment, ça va être le cœur de notre émission hein, sur les enfants illégitimes. On a eu le cas de ce père de famille qui a été voir ailleurs, qui a conçu un enfant ailleurs, comme il le disait si simplement, hein, Étienne. Aujourd'hui, il dit comment faire. Donc, comment faire? Lui, il a eu ce courage de parler, finalement, hein, à sa famille officielle. Mais il dit maintenant comment faire. Qu'est-ce que vous pouvez lui conseiller, Maureen Boigen? Allô, est-ce qu'on est bien en
ligne? Oui, je sais pas trop quoi lui conseiller, parce que de toute façon, je ne pense pas qu'il y ait de formule magique qui fasse que sa famille actuelle puisse accepter comme ça, comme je disais, donc un enfant qui appartient au passé de son père. Donc, peut-être... Est-ce que ça serait possible? Je ne sais pas quel âge ont ces enfants.
Ils sont adultes, hein. Tout le monde est adulte.
Voilà, peut-être.
C'est pour ça qu'ils disent. C'est pour ça qu'ils disent, c'est trop tard finalement.
Je ne sais pas. Je crois qu'il faut laisser le temps au temps. Donc, je ne sais pas depuis combien de temps il a annoncé ça donc à sa famille. Est-ce qu'il faudrait peut-être organiser une réunion familiale, le présenter? Sans que ça engage en tout cas les autres à aimer et à l'inclure, mais peut-être en tout cas à ce que tout le monde se connaisse, parce que j'ai l'impression que ce père, c'est ce qu'il cherche en fait, hein, c'est-à-dire à faire une espèce d'unité et qu'il y ait une bonne entente. Bon, c'est peut-être un peu du rêve de vouloir qu'il y ait une bonne entente, mais peut-être de se rencontrer.
Recoller les morceaux de son histoire, de son parcours de paternité, finalement, hein, pour ce père. Alors, bien sûr, vous pouvez continuer de nous téléphoner, que vous soyez parents d'enfants illégitimes, enfants illégitimes vous-même. Évidemment, si on a des mères qui peuvent nous téléphoner en tout anonymat, on aimerait beaucoup, parce que là aussi, il y a une vraie question. Marie-Lé Blanc, les enfants illégitimes... Vous vous êtes heurté très souvent à un discours de la société qui disait « Bon, bah, finalement, c'est pas si grave. »
C'est constant. Depuis que moi, j'ai appris la vérité sur ma filiation, autour de moi, on me disait « Mais en fait, où est le problème ? Puisque tu as un père. » Et effectivement, moi-même, j'ai longtemps intégré le fait que peut-être que c'était pas si problématique que ça. Et c'est ce qui a généré aussi une angoisse assez forte, puisque j'avais l'impression de créer des problèmes. Et de victime d'une situation, je devenais presque coupable de scinder un peu ma famille en plusieurs parties. Et en fait, c'est pas si grave, mais c'est très important. Parce que vous, quand vous le découvrez, donc généralement, la problématique, c'est que vous le découvrez tard et c'était pas prévu qu'on vous l'apprenne. Et votre identité, c'est-à-dire que toute l'histoire sur laquelle vous êtes construit jusque-là, donc moi, c'était presque à 30 ans, les récits familiaux qu'on m'avait transmis... Tout ça s'écroulait, en tout cas une partie s'écroulait, et vous ne savez plus du tout qui vous êtes. Donc c'est pas grave, j'ai toujours un père, mais à ce père-là se rajoute un second, dont j'hérite toute une partie biologique, génétique, une histoire qui est mon histoire génétique, en fait.
Comment vous avez appris la vérité sur vos origines? C'est votre mère qui a parlé, la première?
C'est ma mère qui a parlé en réponse à une question que je lui ai posée, plus qu'une question, une affirmation. Je suis tombée enceinte, et au moment d'apprendre que j'allais avoir une fille, j'ai eu un blocage mental, comme si j'étais dans l'incapacité de transmettre quelque chose à mon enfant à naître, comme si une courroie de transmission était coincée. Et un an après avoir donné naissance à ma fille, je me suis confiée à une proche et qui m'a conseillé d'aller parler à ma mère. Et donc, on s'est retrouvés de manière assez, assez simple pendant un déjeuner. On n'avait pas des rapports très proches non plus, très intimes. Et puis, j'ai décidé de, voilà, de poser des questions, de savoir ce qu'il y avait dans notre famille qui me rendait si mal. Ça faisait des années que j'avais des symptômes un peu divers et variés qui me faisaient penser que j'avais un souci. En tout cas, avec notre famille, notre dynamique familiale était problématique.
Mais vous n'aviez pas de soupçons précis ?
Non, je savais juste une chose, c'est que quelque chose n'était pas en place. Mais c'est compliqué de vous dire ça quand vous êtes dans une famille a priori bien sous tout rapport, où vous êtes choyé. Mais je sentais que quelque chose ne collait pas, comme un puzzle, comme s'il y avait une pièce qui ne rentrait pas là où il fallait. Et puis finalement, après ce déjeuner qui a duré longtemps, je l'ai un peu poussé dans ses retranchements. Et c'est moi qui ai une espèce de révélation. J'ai su, je ne sais pas comment vous dire, mais j'ai su que c'était ça, que j'étais pas la fille de mon père. Donc je lui ai juste affirmé ça. Elle a répondu qu'effectivement c'était le cas. Et ça a été une libération pour moi Ça a éclairé tout un parcours de vie depuis mes 8 ans, donc jusqu'à mes 29 ans, où je souffrais de divers troubles psychosomatiques. Et je ne comprenais pas. Et ça m'a rassurée, je n'étais pas folle. J'avais bien senti que quelque chose n'allait pas et qu'on me cachait quelque chose.
Est-ce que votre mère vous a dit pourquoi elle s'était tue jusqu'à l'âge de vos 30 ans, jusqu'à ce que vous la mettiez au pied du mur, finalement ?
Alors, elle ne me l'a pas dit explicitement, mais j'ai compris que très vite, c'était une histoire... Elle avait rencontré quelqu'un, elle était mariée, elle avait rencontré quelqu'un, que c'était une histoire d'amour. La seule chose qu'elle m'a dite, c'est que je ne devais pas le dire. Je devais garder ce secret pour moi parce qu'il y avait une honte attachée à cette situation. Et donc j'ai gardé le secret pendant plusieurs mois, pendant à peu près une année. Et je pense qu'effectivement, elle avait voulu se convaincre peut-être que ça pourrait passer comme ça et que ça ne m'impacterait pas. Et je crois, et c'est le propos du livre aussi, c'est de montrer que le secret nous a enfermés toutes les deux et nous enferme pour toujours. Et qu'elle s'est mise elle-même dans une espèce de paralysie, la rendant incapable de me parler et de renouer avec moi.
Votre famille a refusé ensuite d'étaler le problème, hein, finalement, de tout déballer, d'en discuter, même ceux qui n'avaient aucune responsabilité dans l'histoire, c'est-à-dire vos frères,
hein,
et pour cause. Est-ce que finalement, il n'y a pas cette réaction, y compris dans la société, de dire ben non seulement c'est pas si grave, mais en plus, finalement, ça ne change rien. Ça ne change rien parce que tu as été aimé de la même façon, tu fais toujours partie de cette famille. C'est la famille élevante qui compte sur les liens du sang.
C'est complètement ça. Et je pense que ce qui est important, c'est d'incriminer personne. C'est que je pense que ma famille s'est retrouvée aussi coincée dans ce discours de la société qui fait que la famille, c'est l'endroit protégé, régie par des lois. En ce qui concerne celle de la filiation, c'est très rigide en France, en tout cas. Et donc, le discours qui en a découlé, c'était « Écoute, en fait, ça change rien, et on fait pas de vagues, et on n'en parle pas. » Et moi, je n'avais pas les mots.
Ça voulait dire que la solidarité familiale continuait pour vous, en principe.
Pour moi, en fait, j'attendais qu'on me dise « Réunissons-nous et parlons-en ». Il y a cette phrase que Serge Tisseron utilise régulièrement et qui m'avait aussi redite, c'est « Le secret ne s'oppose pas à la vérité, mais à la communication ». Et c'est tellement vrai, c'est-à-dire que si chacun est au courant dans son coin, en fait, on ne peut pas faire bouger les choses. Il aurait fallu, moi j'aurais aimé, qu'on puisse en discuter tous ensemble, mais je n'avais pas non plus les mots pour dire « j'aimerais qu'on en parle tous ensemble ». Et donc, chacun est enfermé dans des mécanismes complètement délétères qui font qu'on ne peut pas en discuter.
Maureen Boigen, le secret ne s'oppose pas à la vérité, mais à la communication. Il existe aussi des cas où tout le monde est au courant, sauf l'enfant, où les adultes, finalement, protègent le secret pour protéger la filiation sociale, pour que le père, qui n'est pas le père, conserve son enfant.
Oui, après, les effets sont les mêmes, c'est-à-dire qu'il se pose toujours la question de la place dans la famille, c'est-à-dire que l'enfant qui est l'objet en fait, de ce secret n'arrive pas plutôt à se sentir à sa place ou à la bonne place. Donc il y a toujours une question de positionnement. Il y a toujours aussi quelque chose qui cloche, enfin c'est ce que dit Marie, dans le sens où un enfant, quand il y a un secret dans une famille, bon, en l'occurrence le secret de filiation, il le sent, il le ressent au fond. Il sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui est logique, parce que cet enfant-là, de toute façon, il va être regardé d'une façon particulière par la mère, puisque l'enfant va refléter aussi cette histoire que la mère a eue avec, avec un homme qui n'est pas le père, le père social, qui n'est, oui c'est ça. Donc il y a toujours quelque chose qui fait que l'enfant sait en fait au fond de lui. Et ça met un malaise, ça met un malaise dans la famille. Et ce qui se passe aussi, c'est que quelquefois, ce sont les autres enfants qui peuvent se sentir. Alors, c'est pas dans le cas de tout le monde sait, mais dans le cas où personne ne sait, quand il y a plusieurs enfants, il se peut que ce soit les d'autres enfants qui sentent qu'il y a un doute sur la paternité, sans que ce soit eux qui soient concernés.
Oui, oui. La fratrie tout entière peut en souffrir finalement.
La fratrie tout entière en souffre.
Oui, absolument.
En souffre en termes de conflits, parfois de violence, en termes de fâcherie, en termes de protection, de rejet. Donc toute la fratrie est impactée, bien sûr.
Est-ce qu'aujourd'hui, avec les débats sur la bioéthique, la procréation médicalement assistée où une femme peut concevoir un enfant avec un donneur de sperme et où maintenant il y a l'accès aux origines qui est possible, même si ce système n'est pas légal dans tous les pays, mais est-ce que le débat de l'accès aux origines pour les enfants a été clairement posé, y compris pour ces enfants illégitimes? Est-ce que ça a fait avancer le débat pour les enfants illégitimes, selon vous, Marie Lemelin?
Alors, je pense que concernant la PMA, ça a avancé il y a à peu près 2 ans avec la révision de la loi de bioéthique. Et je pense que c'est fondamental puisque moi, je ne vois aucune raison pour laquelle on mentirait ou on cacherait à un individu ses origines. Pour moi, c'est un droit vraiment fondamental. Donc effectivement, tout ce qui concerne la PMA, ça a avancé. Et je suis évidemment pour la levée de l'anonymat des donneurs, parce que je trouve que c'est tellement important pour un individu de savoir d'où il vient et de se raccrocher à une image, à une histoire biologique. Et je pense que le souci, ce que peut-être les gens ne savent pas, c'est que... On ne cherche pas un nouveau père, on cherche juste une histoire à laquelle se raccrocher pour faire un récit qui tienne la route et qui soit cohérent. Je rebondis sur ce que Maureen disait, la place, le sujet de la place, imaginez soit un arbre généalogique, soit les albums de photos de famille. Oui. Vous avez des places comme ça. À partir du moment où votre place n'est plus celle qu'on a dit qu'elle était... Et ben c'est effacé, donc vous n'êtes nulle part, vous n'êtes raccroché à personne. Si je prends l'image de l'arbre généalogique, vous êtes sur une branche coupée en fait, et ça vous fait avancer complètement bancal. Donc oui, je suis pour que chacun puisse connaître ses origines, quelles que soient les conditions de la conception, vraiment.
On a besoin d'un récit en fait. Il y a un récit qui manque et qui est un récit fondateur.
Je vous lis une question d'un auditeur. C'est les pères, hein, là, j'ai l'impression, qui ont besoin d'aide. Alors, les mères, on aimerait bien aussi pouvoir lire leurs messages ou les entendre. Hein. Un auditeur qui a eu un enfant avec une femme mariée, il ne sait pas quoi faire. Reconnaître l'enfant, point d'interrogation, donc ça veut dire qu'il ne l'a pas reconnu pour le moment. Garder le secret, il a besoin d'aide et de conseils. Maureen Boyguen.
Il a eu un enfant avec une
femme mariée. Donc cet enfant-là n'est pas reconnu par le père biologique, hein, mais bien reconnu par le père social, le père élevant. Ce père biologique, c'est celui qui nous écrit. Est-ce qu'il doit reconnaître l'enfant? Est-ce qu'il doit parler? Quand on vous entend, Marie Lemelin, je ne sais pas si votre père biologique, d'ailleurs, a été au courant dès le début que cette femme avec qui il avait eu une histoire d'amour était enceinte, et votre mère, hein, et avait eu un enfant. Est-ce qu'il l'a su ou pas, à l'époque?
Les versions varient un peu. Je pense qu'il l'a su d'une manière ou d'une autre, oui.
Oui.
Mais je pense que c'est ça arrangeait tout le monde. En fait, c'est un peu quelque chose qui tourne en rond, c'est-à-dire que comme on ne parle pas de l'importance pour un enfant de connaître ses origines, un père peut se dire finalement, c'est pas si important, que je n'ai pas de rôle puisque je serai pas son père. Donc, à quoi bon le dire en fait, cet enfant, cet individu va grandir et puis c'est pas si grave que ça.
Qu'est-ce que vous répondriez qu'est-ce que vous répondez à Maudou qui nous a écrit du Sénégal et qui a cet enfant illégitime?
Mais en fait, il y a aussi la question de la mère, en fait, parce qu'il ne peut pas être tout seul à vouloir reconnaître l'enfant. Si je comprends bien, en fait, l'enfant, il fait maintenant partie d'une autre famille, donc avec cette femme qui est mariée. Donc la question, elle est aussi de mettre en péril quelque part, en fait, de bousculer cette famille et la construction de cette famille.
Donc, vous avez raison, reconnaître l'enfant sur le plan juridique, ça, c'est encore un autre parcours du combattant. Mais reconnaître l'enfant en parlant, c'est déjà une première démarche qui est déjà compliquée.
Oui, mais il ne peut pas le faire tout seul, puisqu'il l'a eu en tout cas avec cette femme. Donc, c'est quand même quelque chose qui est à parler avec elle. On en revient toujours à la communication.
Et à la mère. Et au secret
des
mères.
Oui, et à la mère, bien sûr.
Et à la mère. Maureen Bouaghen, beaucoup de choses à dire sur le silence des mères qui détiennent la vérité, qui détiennent le choix aussi de ne pas parler, de maintenir le secret, de vivre dans cette situation-là.
Oui, en fait, les mères, elles ont un énorme pouvoir, justement, puisque c'est elles qui désignent le père, en tout cas dans notre société. Donc, le pouvoir de nommer le père à l'enfant. Et elles ont un énorme pouvoir, puisque en cas de secret de filiation, elles sont ces gardiennes, en fait, du secret. Donc, ça... Et quelquefois, en fait, dans les histoires, ce que ça donne souvent chez les enfants dont la mère ne parle pas, c'est qu'ils restent attachés en fait à cette mère d'une façon ou d'une autre, y compris dans le conflit, en attendant des fois même jusqu'au dernier souffle de la fin de vie de la mère qu'elle les délivre en tout cas du secret.
Oui.
Donc c'est énorme en fait en termes de pouvoir.
Il
y a un secret de filiation.
Marie Leblanc, vous, qu'est-ce que vous auriez attendu de votre mère une fois qu'elle a accepté de dire la vérité ?
Ah, j'aurais aimé qu'on puisse en parler et que ça la libère aussi. Je pense que les mères, je suis d'accord avec ce que dit Maureen, qu'effectivement elles détiennent un pouvoir colossal, mais qui les enferme tout autant. Et j'ai l'impression que de ma position d'enfant illégitime, j'ai cristallisé en fait une espèce de fantasme d'une histoire d'amour qu'elle a vécue et que je ne représente. Je suis plus objet que sujet en fait de son affection et donc. J'aurais aimé qu'on puisse inverser cette dynamique et qu'elle me reconsidère comme une personne indépendante et pas comme ce secret. Et finalement, elle m'a regardée grandir et j'imagine, si je me mets à sa place, la peur d'être découverte parce que peut-être je grandissais en ressemblant à mon père biologique, essayer de ne pas attirer l'attention. Donc je pense que psychiquement, c'est assez intense, mais Maureen pourrait nous le confirmer ou pas, de se contraindre à ne jamais être découverte. Et ce secret nous a clairement enfermés et peut-être qu'en discutant ensemble un peu plus, pourquoi pas chez un psy d'ailleurs, on n'a pas essayé, mais ça aurait permis de reconstruire une relation. Je pense que le secret a défini notre relation et il aurait fallu reprendre tout depuis le départ, comme une renaissance finalement, mais ça n'a pas été possible.
C'était pas son
choix.
Oui,
le secret en fait, le secret étant donné que ça enferme, donc ça sépare en fait. Il y a quelque chose qui se met à part d'une parole en fait qu'on va éviter de dire et donc il y a tout un ensemble, toute une stratégie, enfin des stratégies qui se mettent en place pour éviter en fait que ça se sache.
Ouais. C'est le silence qui sépare, mais il y a des situations d'enfants illégitimes où tout le monde sait, où il n'y a pas de secret et pourtant c'est pas forcément plus simple. On parle des enfants illégitimes, comment se construire quand un de ses parents n'est pas son géniteur. Vos appels bien sûr sont anonymes. Appelez-nous surtout avant la fin de l'émission s'il vous plaît. 33 7 64 45 51 41.
Ma trajectoire car une vie peut se résumer en quatre phrases. Néglige pas le taf et vu que dehors c'est un traquenard. J'ai dû contourner avec du vice et un trackpad. Je profite d'un flashback, des disquettes de la snap. Bonne action lundi, pas pour être pute les autres jours de la semaine. Cette ville est sinistre, partout le bleu diacimis. Faut pas qu'on oublie la magie qu'il y a dans nos iris. Ne laisse pas désarmer la réalité, tu la crées en partie. Chaque action un grain dans le sablier qui t'est imparti. Concentré si tu perds pas ton temps. Rassuré par l'amour des nôtres sur le chemin qu'on prend. Vois-tu, j'ai arrêté d'essayer de comprendre ces gens qui reprochaient aux autres des erreurs qu'eux-mêmes commettent. À croire qu'ils vivent hors de leur corps, chasseurs de comètes, à s'abreuver de promesses. Parle d'élévation, mais reste collé comme des posters. Et moi, paro dans mes bails comme d'hab. En vrai, je fais léviter mes crottes de nez comme ban. Au bord de la mer, je saurais même pas quoi y faire. Je vis mon rêve en silence et je me prépare pour l'hiver. C'est quoi la vie si je peux pas aimer mes gens?
quoi la vie si je peux pas élever mes sens? C'est quoi la vie si je peux pas en donner un peu? Humilité et force d'aller plus loin quand je m'en remets à Dieu. C'est quoi la vie si je peux pas donner l'échange? C'est quoi la vie si je peux pas doubler mes chances? C'est quoi la vie si je peux pas l'apprécier un peu? Humilité et force d'aller plus loin quand je m'en remets. Le démon reste hors d'atteinte tant que mon mental est en rotation. C'est pas important d'être riche si nos corps sont déjà des locations. Je sais que j'étais souvent en tort et que j'oubliais les autres quand je partais m'isoler, mais ça a pas terni nos relations. On a grandi sous les vents et courants contraires. Je reste cool en concert, j'ai un avenir à rencontrer. Ouais, c'est en étant si différent qu'on se complète. Analyse le contexte sur qui tu peux vraiment compter. Certaines choses se passent sous ton nez ou de l'autre côté du monde. Plutôt mourir vraiment que de raisonner en foutu zombie. Je pense à mes gars, fonce des dents la nature. La drogue c'est ce qui fait que des gens bien se reposent pendant que des enfoirés travaillent dur. Un émetteur quand tes yeux sont fixés sur moi. La caisse claire est digne de confiance au milieu de tous ces humains. Au bord de la mer, je saurais même pas quoi y faire. Je vis mon rêve en silence et je me prépare pour l'hiver.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est en direct sur RFI, c'est Népal, trajectoire. Et nous, on parle de ces trajectoires d'enfants illégitimes. Comment se construire quand on n'est pas reconnu par son parent biologique ou en tout cas qu'on ne vit pas avec son parent biologique et qu'il y a une trace de secret, de non-dit. On en discute avec vous, Maureen Boigen, psychothérapeute spécialiste de psychogénéalogie, ce fameux arbre généalogique qui est souvent si compliqué à dessiner. Et vous, Marie Leblanc, vous avez créé le site internet Bande de Bâtards, vous publiez le syndrome du bâtard, connaître ses origines pour construire son identité. Vous racontez votre histoire aussi dans ce livre publié chez Flammarion. Et vous nous appelez au 33 7 64 45 51 40. On donne la parole à celle que nous appellerons Sophie, qui est à Dakar. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour Sophie, vous avez demandé à ce qu'on modifie votre voix et on le comprend bien. Alors vous êtes, je dirais, plutôt, votre histoire, c'est vous êtes plutôt un cas d'une famille recomposée, assimilée à enfant illégitime, parce que vous avez grandi avec le mari de votre mère. Vous saviez que ça n'était pas votre père biologique, hein, c'est bien ça?
Oui, j'ai toujours su. Oui.
C'est ça. Et vous avez toujours connu votre père biologique?
Absolument, oui.
Qui avait un autre foyer de son côté, hein?
Absolument.
C'est ça. Alors finalement, quel était le problème? Parce qu'on aurait pu appeler ça tout simplement une famille recomposée. Votre mère avait ensuite épousé un homme qui n'était pas votre père et elle avait eu d'autres enfants qui étaient vos frères et sœurs. Demi-frères, demi-sœurs, on va dire.
Oui, c'est ça. En fait, quand je suis née, ma maman n'était pas mariée. Donc, avoir un enfant dans les années 70 au Sénégal en n'étant pas mariée, il faut l'assumer. Et je pense que ma maman n'a pas su assumer tout ça. Et moi, mon problème, il découle de ça. Il ne découle pas du fait que le mari de ma mère soit pas mon père, mais du fait que le fait que ma maman n'assumant pas ce premier enfant est légitime, je n'ai jamais réellement intégré cette fratrie. Ni la fratrie construite du côté de mon père. Donc, je suis un peu comme un électron libre entre les deux fratries. Et ça, c'est une situation assez difficile à vivre.
Que vous disait votre mère exactement sur votre situation, sur votre place?
Justement, rien.
Rien, elle ne parlait pas.
Rien, c'était vraiment un sujet complètement occulté. On n'en a jamais parlé. En grandissant, elle a tenté de me faire croire qu'elle a divorcé de mon père. Mais moi, je sais qu'ils n'ont jamais été mariés. Donc, je ne poussais pas le sujet plus loin que ça parce que je savais que je n'aurais pas les réponses. Mais c'est le fait de ne pas avoir assumé, tout simplement, et de m'avoir intégré complètement à cette patrie qu'elle était en train de construire avec les enfants de son mari. Et moi, je me sentais un peu sur le trottoir, entre guillemets. Donc, comme je disais tout à l'heure à votre collègue, on vivait dans une grande concession familiale, donc on mangeait ensemble le midi, mais le soir, chaque petite famille mangeait de son côté. Et moi, je ne mangeais pas avec ma maman et ses enfants.
Et vous mangez avec qui alors? Vous mangez avec qui le soir alors?
Avec ma grand-mère à l'époque.
Votre mère était violente avec vous?
Oui.
Et également...
Ma maman est quelqu'un de violente physiquement, verbalement, naturellement. Et c'était pas que contre moi, mais moi je payais cash parce qu'il n'y avait personne pour me protéger. Et mes frères et sœurs, c'était des menaces, genre « quand ton papa va partir, tu verras ». Mais comme quand le temps que le papa parte, la tension est retombée, bon, eux, ils ne payent pas, mais moi, c'est tout de suite.
Et aujourd'hui, ça, pourquoi dites-vous que vous n'êtes pas mieux acceptée dans la famille de votre père biologique, hein, Sophie ?
Je ne peux pas dire que je ne sois pas acceptée. Vraiment, il n'y a pas de tension, il n'y a pas de problème. Mais je ne fais pas partie de la fratrie. Il va se passer des choses, je ne vais jamais être au courant. Mes soeurs se sont mariées, je les suis le lendemain du mariage. Je ne suis pas associée à ce qui se fait dans la famille. Ils ne viennent pas me voir. Ils ne font pas partie de ma vie, je ne fais pas partie de leur vie. Donc j'avoue que pendant les 40 premières années de ma vie, je me suis battue, j'ai bataillé en fait pour trouver une place dans la fratrie construite du côté de ma mère et trouver une place dans celle construite du côté de mon père. Et il y a 5 ans, j'ai renoncé parce que c'est beaucoup trop d'énergie et je n'y arrive pas. Et donc j'ai décidé de me concentrer sur la fratrie que je construis, c'est-à-dire mes enfants, mon mari. Je me suis recentrée sur moi-même en fait depuis 5 ans. Et en essayant un petit peu de mettre toute cette histoire derrière, en second plan, je ne peux pas l'effacer, mais je la mets en second plan et je me concentre sur ce que moi, je construis. Et je trouve que l'histoire que je construis avec mon mari et mes enfants, j'ai le pouvoir là-dessus, alors que sur le reste, je n'ai pas le pouvoir. Moi, je me dis que si je faisais partie de la fratrie, quand mes sœurs se sont mariées, on aurait dû me le dire. Mais c'était, oui, ça s'est fait très vite, on n'a pas eu le temps de dire à tout le monde, etc. Bon, bah.
Donc aujourd'hui, vous vous êtes réenraciné, mais dans le présent, à défaut de vous enraciner dans le passé, Sophie.
Voilà, c'est exactement ça. Je me sens impuissante, en fait, face à ces fratries. J'ai essayé.
Restez en ligne avec nous, Sophie, si vous le voulez bien. J'aimerais avoir la réaction de Marie Lemelin quand Sophie nous dit qu'elle se sentait flottante en fait entre les deux familles. Vous dites quand vous avez appris la vérité, puisque vous pour vous évidemment il y avait une place du secret qui était très très forte. Vous dites après une fois qu'on sait, on est seul au monde, on navigue à vue, on essaie de comprendre ce que l'on a fait pour mériter un tel traitement.
Alors, je comprends tellement. Bonjour Sophie.
Bonjour.
C'est tellement similaire à ce que j'ai ressenti, à ce que d'autres que j'ai pu rencontrer pour Bande de Bâtards ressentent aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai cette image que j'ai l'impression d'être en transit entre un pays et un autre, dans une zone, dans un aéroport, quand vous êtes entre deux avions, et en fait, vous restez coincé. Vous n'êtes plus vraiment dans une famille et plus vraiment dans l'autre. Et j'aimerais rebondir sur cette question de la mère qui tait ou qui a un comportement. À partir du moment où vous cachez, où il y a soit un secret, soit une volonté de ne pas parler ou de ne pas aider à faire le lien, il y a de la honte. Et la honte, c'est quelque chose que vous, enfant illégitime, vous recevez, ça vous colle à la peau et vous grandissez avec ça. Et c'est vrai que j'ai, comme Sophie, décidé de laisser en place cette espèce de magma, de me concentrer, de couper. En l'occurrence avec ma famille, pour me concentrer sur la famille que je reconstitue avec mes enfants et leur père. Et c'est, ça ne veut pas dire que je n'ai plus de famille, mais c'est plus simple de se dire, cette honte-là, je ne veux pas la remettre dans ma vie avec mes enfants et ne pas transmettre ce sentiment qui est quand même un des pires sentiments qui existent.
Oui, exactement ça.
Maureen Boigen.
Oui, moi je voulais, dans le témoignage de Sophie, en fait, j'ai vraiment entendu que votre mère, en fait, elle est restée avec le sentiment de la faute et qu'il y a quelque chose de ce sentiment, en fait, dont vous vous êtes imprégné ou qui a rejailli sur vous et qui s'est installé, qui s'est inscrit et qui fait que ça crée un sentiment d'être à part et d'être toujours en défaut quelque part, de pas trouver sa place. Et c'est vrai que l'issue quelque part ou une bonne issue pourrait être au moins intérieurement de redonner, en tout cas de remettre en fait ce sentiment de la faute, je dis bien ce sentiment de la faute chez votre mère pour vous en dégager, parce que vous y êtes pour rien. Un enfant qui arrive au monde même issu d'une relation adultère, illégitime, etc., il y est pour rien.
Donc, c'est pas non plus d'accabler la mère, mais au moins de lui rendre cela.
C'est ça, l'enfant illégitime, c'est, Marie Lemelin, la manifestation visible qu'il y a quelque chose qui a déraillé. Alors là, pour le cas de Sophie, je sais pas si on peut parler de faute, sa mère a eu une relation et un enfant avant de se marier et de fonder une famille, hein, même si c'était un enfant hors mariage. Mais pour vous, dans votre cas, Marie Lemelin, votre mère, vous l'avez dit, il y avait ce sentiment de honte. Est-ce que ça a conduit votre mère à ce qu'il y ait une inégalité d'amour entre ses enfants, entre vous et vos frères?
Alors, je ne le dirais pas comme ça. Il y avait une inégalité, à mon sens, d'attention et d'émotion communiquée. J'aimerais juste préciser, pour moi, il n'y a pas... Parce que c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché, c'est de juger un comportement de ma mère. En fait, ça m'est tout à fait égal. Je pense que c'est pas... Et c'est ce qui alimente aussi ces discours. Tu juges, pour tous les enfants illégitimes, tu remues les vieilles histoires. En fait, je pense qu'on se fiche un peu de savoir comment on a été conçu. Ce n'est pas du tout le sujet. Par contre, il faut, comme le dit Maureen, il faut remettre ce sentiment, puisque la mère, si elle le cache, c'est qu'elle se sent en faute, quelles que soient ses raisons. Mais ce sentiment-là va se transmettre à l'enfant, qui va l'intégrer, et donc se sentir constamment coupable de ramener le sujet sur la table et de demander des réponses à ces questions. Non, il n'y avait pas une inégalité de traitement. Je pense que moi, ce que je ressentais, c'était qu'elle mettait une distance entre elle et moi pour ne pas peut-être attirer l'attention sur moi.
Ouais, et protéger ce secret être si bien gardé. Merci beaucoup.
Juste ajouter, en fait, quand je parle de la faute, c'est le regard social.
Oui, complètement.
Bien sûr, évidemment. On ne porte pas de jugement moral sur toutes ces histoires.
Voilà, c'est vraiment le regard social.
Dans lequel les mères s'enferment toutes seules, en fait.
Exactement, ouais. dans lequel les mères s'enferment toutes seules, d'autant plus que plus on avance à nos époques, hein, ce qui est surprenant d'ailleurs, c'est qu'il y a toujours le même nombre de pourcentages, même si on estime que c'est un pourcentage tout petit d'enfants illégitimes, mais ils ne disparaissent pas, alors qu'aujourd'hui, à notre époque, les choses devraient se dire beaucoup plus facilement, ce qui ne semble pas être tant que cela le cas. Merci beaucoup à vous, Sophie, de nous avoir appelé pour nous parler de votre histoire. Merci, très bonne journée à vous.
Merci. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
On prend également Modeste qui nous appelle du Bénin. Bonjour Modeste.
Oui, bonjour Emmanuel.
Alors vous, votre histoire est très différente. C'est plutôt une histoire de recherche des origines par rapport à l'adoption. Mais il y a toujours ce point commun du secret. Parce que vous avez découvert à 14 ans que les parents avec qui vous viviez n'étaient pas vos parents et que vos parents biologiques étaient décédés. C'est bien cela, Modeste?
Oui, c'est bien cela.
Racontez-nous.
Il y a des années, je vivais dans une famille, mais à un moment donné de ma vie, en classe de CE2, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne clochent pas. Parce que j'ai commencé par avoir de doutes. C'était difficile à ses parents de venir à mes besoins comme il le faut. Difficile de payer ma scolarité. Du coup, je faisais des doutes. Mais à l'âge de 14 ans, je me suis rendu compte que vraiment, ceux avec qui je vivais n'étaient pas ma famille, n'étaient pas mes parents biologiques, que c'est une famille d'accueil.
C'est ça, vous aviez été confié à la mort de vos parents à cette famille, et du coup, ils vous élevaient, mais pas tout à fait comme leurs propres enfants, c'est ça, Modeste?
Oui, tout à fait. Du coup, c'était mal, c'était difficile pour moi d'accepter la nouvelle, je me culpabilisais un peu partout, mais... Juste à un moment, je me suis dit, bon, ce serait fatal pour moi si je ne faisais rien pour subvenir à mes besoins moi-même. C'est comme ça, j'ai commencé par faire tout ce que je trouvais comme boulot pour payer ma scolarité.
À l'âge de 14 ans.
À l'âge de 14 ans, pour subvenir à mes besoins. Mais à un moment donné, Dieu a fait grâce, j'ai rencontré une dame avec qui je me suis familiarisé à l'église, qui me donnait un peu de coups de main. Quand j'ai besoin de quelque chose, il venait à mon aide. Alors, j'ai jugé bon de lui raconter mon histoire, juste pour me faire dégager comme je le fais aujourd'hui avec vous. Bon, je l'ai raconté. Après avoir raconté l'histoire, à des moments donné, il m'appelait de temps en temps, me donnait conseil. Mais il m'a donné une phrase célèbre un jour. Il m'a dit ceci. Modeste, arrête de te culpabiliser. À un moment donné de ta vie, même si tes parents biologiques vivaient, tu dois les quitter pour aller fonder ta famille ailleurs. Vraiment, c'était difficile pour moi d'accepter la nouvelle. Même jusqu'au moment où je vous parle, mes parents biologiques me manquent.
bien sûr,
donc,
Modeste.
C'est mon histoire.
Mais ça vous a aidé à regarder vers l'avenir. Vous avez 29 ans aujourd'hui, hein, Modeste.
Oui, ça m'a aidé à regarder vers l'avenir. Et du coup, à un moment donné, quand j'ai déjà encore des points difficiles, je me rappelle de cette phrase-là. Et j'essaie de prendre la vie comme il le faut.
Merci à vous, Modeste, de nous avoir appelés. Ça rejoint un petit peu ce que Sophie nous a dit, finalement, c'est qu'elle se concentre aujourd'hui sur la famille qu'elle fonde. Et c'est aussi le cas, Marie Lemelin, où vous avez coupé les ponts avec votre famille, avec laquelle il y a eu trop de secrets, trop de non-dits. Hein, parce que de toute façon, vous vous êtes dit aussi, le cours de l'histoire, c'est aussi de quitter ses parents, que la situation soit simple ou pas.
Oui, absolument. Oui. Et je préfère... C'est moins compliqué de ne pas les voir que de les voir et de faire semblant. Ça ne va pas sans douleur, évidemment, mais ce sont des choix parfois pour sauver un peu sa peau. Et puis, il faut bien que je me concentre sur ce que je vais transmettre à mon tour à mes enfants. Et ma priorité, c'était de reconstruire, reconsolider un récit, pour revenir à ce qu'on disait au début de l'émission, qui ait du sens et qui soit réel, pour transmettre cette histoire-là à mes enfants.
On accueille une auditrice qui nous appelle au 33 7 64 45 51 41. Bonjour Edith. Edith, est-ce que vous êtes bien en ligne avec nous? Ah, j'ai l'impression qu'on a peut-être perdu Edith, qui est étudiante, qui attend un enfant et dont la situation est compliquée par rapport à la paternité. Bonjour Edith.
Bonjour Emmanuel.
Edith, vous avez demandé à ce qu'on change votre voix et on le comprend bien. Vous êtes étudiante, hein.
Oui.
Vous habitez à l'heure actuelle en Suisse. Vous
en
êtes
Suisse.
Enceinte d'un homme
oui.
qui en fait vous a révélé qu'il était déjà marié, qu'il avait déjà fondé une famille.
Non, il ne m'a pas révélé. C'était parti sur une base de relations sérieuses. Mais on a eu une relation non protégée. Puis le lendemain, j'ai pris une pilule. Voilà, ça marchait toujours à les pilules, mais comme ça faisait longtemps aussi que j'avais pas de relation sexuelle, ben voilà, je suis tombée enceinte et sans savoir qu'il avait une femme et des enfants.
Il a fini par vous le révéler?
Plus tard, oui, quand j'ai dit que j'étais enceinte.
Donc il est marié, il a 3 enfants, ça veut dire qu'il ne veut pas reconnaître l'enfant que vous portez?
Il veut rien avoir à faire avec l'enfant. Il voulait avorter.
Et vous, dans quel état d'esprit êtes-vous, Edith?
Ben, au début, j'étais très en colère, mais après, j'ai bien accepté l'enfant parce que j'ai à peu près voilà, 30aine d'années, donc je ne peux plus avorter, et surtout pas pour ses beaux yeux. Voilà, je ne voulais pas avoir affaire à lui du tout, mais... Plus tard, moi, je pense que c'est une bonne idée quand même de faire les choses maintenant, jusqu'à un an après la naissance de l'enfant, pour une action de paternité. Voilà, faire les choses dès le début, c'est pas dans 10 ans que je vais venir vers lui, voici ta fille, après que je l'ai vraiment... Voilà, on est tous les deux responsables et fautifs.
Donc la question que vous vous posez, c'est quoi finalement, Edith? C'est comment faire en sorte qu'il reconnaisse l'enfant relativement rapidement?
Ouais, j'ai ma petite idée, hein. Je ne pense pas qu'il veuille, mais je veux quand même essayer de discuter un peu. Et après, en fait, s'il n'accepte pas, ben, je pense que je vais quand même...
Intenter une action en justice, vous voulez dire?
Oui.
Avec des tests ADN?
Oui, mais c'est pas pour autant une vengeance. Je le fais pour ma fille. Beaucoup.
Pour qu'elle se construise avec un père, pas forcément le père qui habite avec elle, mais un père qui est clairement déclaré et qu'elle peut connaître.
Justement.
Merci beaucoup Edith. Vous posez la question justement de... vous, ça a été le cas pour vous, Marie Lemelin, rapidement, mais ça a été la question de que faire une fois que vous saviez... Oui. D'abord, vous avez mis des années à retrouver votre père biologique. En réalité, en France, c'est très compliqué si on veut faire quelque chose de cette vérité-là, non?
C'est très compliqué. Assez rapidement, j'ai pris contact avec une avocate qui m'a tout de suite conseillé de ne rien faire parce que le droit n'était pas forcément pour moi. Il aurait fallu, déjà j'étais trop âgé, puisque vous pouvez éventuellement intenter une action dans les 10 ans qui suivent votre majorité. Mais il faut d'abord que le père qui vous a reconnu, et qui est votre père pour la loi, et dont par exemple le mien dont je porte le nom, il faudra qu'il me renie, en tout cas qu'il renie cette paternité. Et ce sont des procédures assez longues déjà, et puis assez intenses pour tout le monde. Et ensuite, dans un deuxième temps, vous pouvez éventuellement intenter une action envers le parent biologique. Mais on me l'a fortement déconseillé, parce que c'est très très long, c'est très coûteux, et c'est pas du tout garanti que ça fonctionne. Après, la reconnaissance, elle vient pas forcément par le droit. Elle vient aussi quand j'ai retrouvé mon père biologique. La reconnaissance l'ai eue parce qu'on s'est vu à plusieurs reprises dans un contexte un peu particulier. Je pensais le voir 3 heures pour un café, on s'est vu sur plusieurs jours d'affilée. Ça a été pour moi la reconnaissance dont j'avais besoin, et surtout de lui dire « je suis là, j'existe et je sais ». Il n'a jamais été question que je tisse un lien avec lui, mais c'était reconnaître que de cette liaison qu'il avait avec ma mère, j'existais et que j'avais hérité de lui. Quelques traits physiques, quelques traits de caractère aussi, et peut-être voilà, des comportements. Et la reconnaissance, pour moi, elle était essentiellement là.
Vous avez fondé ce site Bande de Bâtards en 2017. Le choix du mot, d'ailleurs, qui est assez violent, hein, la démarche, ça a choqué autour de vous?
Ça a choqué, étonnamment, ceux qui n'étaient pas enfants illégitimes. Toutes les personnes avec qui j'ai été en contact pour ce projet et qui étaient dans la même situation que moi se retrouvaient très très bien dans ce mot. C'est parti un peu d'une discussion où j'étais avec des amis, et je me rendais compte à quel point on était nombreux, en fait. Dès que je parlais de mon histoire, on me disait « mais je connais aussi quelqu'un qui a vécu ça et qui est dans la même situation que toi, c'est compliqué ». Et voilà, ce mot a été lâché, ça fait vraiment une belle bande de bâtards. Ouais.
Alors, ce sont des gens que vous avez rencontrés, au début c'était des rencontres virtuelles, hein, via Internet.
Alors au début c'était virtuel, et puis après des gens, ouais. Donc sur le site on a publié 10 portraits, donc avec des vraies rencontres. Je travaillais avec un photographe qui s'appelle Sven Andersson. Et en parallèle de ça, et un peu en souterrain, beaucoup de gens m'ont contacté par email, ne souhaitant pas du tout participer à cette galerie de portraits, ouais. Mais en me disant qu'ils étaient heureux de trouver un lieu, enfin, où on parlait de cette manière de l'illégitimité, et pas de manière larmoyante, comme on peut le voir parfois dans des émissions de télé, pas de manière condescendante, mais juste en posant des récits. On en revient toujours au même, sur des bouts d'histoire, de ce qu'on ressent pendant le secret, ce qu'on ressent après la révélation, et ce qu'on ressent dans sa famille, et comment retrouver sa place,
on
et justifier sa place.
Et ce qu'on en fait ensuite, hein, pour reconstruire son identité. Vous citez d'ailleurs une des histoires, celle dont tout le monde rêve, écrivez-vous, c'est celle où le père biologique a recherché lui-même la trace de son enfant, oui, des années après, et en effet, ça n'est pas si courant. Merci beaucoup à vous, Marie Lemelin. Le syndrome du bâtard, c'est votre livre, Connaître ses origines pour construire son identité, publié chez Flammarion. Merci à tous les voisins et voisines aussi qui nous ont téléphoné, envoyé des messages. Merci à vous, Maureen Boigen, psychothérapeute, spécialiste de psychogénéalogie. Très bonne journée à vous. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Demain, 7 milliards de voisins. La parole aux jeunes. Des étudiants de grandes écoles revoient leur carrière en quête de sens, sens éthique, sens environnemental. Les multinationales ont-elles du souci à se faire pour attirer ces talents désormais qui ne veulent plus réussir dans la vie, mais réussir leur vie? On en parle avec des jeunes qui ont réalisé un documentaire très intéressant sur leurs interrogations et leurs idéaux. Dans quelques instants, le journal sur RFI.